أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous retrouve pour cette nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam. Et nous allons poursuivre notre réflexion, cette fois-ci autour d'un thème qui est assez intéressant parce que beaucoup m'ont demandé de pouvoir l'aborder à travers l'Afrique, à travers l'Occident, à travers l'Asie, où j'ai rencontré des femmes et des hommes qui se sont convertis à l'islam. Et j'aimerais aborder la question de la conversion aujourd'hui avec vous et s'arrêter un tout petit peu à ce que cela veut dire et quelles en sont les conséquences et finalement quels peuvent être également les problèmes que nous trouvons dans les différentes communautés musulmanes instituées, installées à travers le monde et parfois les difficultés que certaines femmes, que certains hommes qui entrent dans l'islam trouvent quand ils sont liés à des musulmanes et des musulmans. Premier des éléments, arrêtons-nous un petit instant sur la formulation. Parce que une femme et un homme qui a pu rencontrer d'autres musulmanes ou d'autres musulmans, qui a pu lire des livres, aujourd'hui on dit que l'islam est la religion qui augmente le plus à travers l'Occident, et beaucoup en sont très très contents. Il n'y a pas de quoi se réjouir de cela au fond. Il faut bien réfléchir à ce dont on parle. C'est vrai que l'islam est une religion qui aujourd'hui voit beaucoup de femmes et d'hommes entrer dans l'islam, mais il faut dire aussi deux choses. La première, c'est qu'il y a une réalité démographique. Un grand nombre de musulmanes et de musulmans ont beaucoup d'enfants. Il y a des gens qui entrent dans l'islam parce qu'il y a une présence musulmane. Puis il y a des femmes et des hommes qui partent, qui quittent l'islam, qui sont entrés pendant quelque temps et puis qui s'en vont, qui ne sont pas convaincus. Alors après, on peut dire que ça ne concerne pas les musulmans, que finalement, ces personnes-là sont perdues. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça, il faut que nous réfléchissions à ce que ça veut dire que cette conversion, et déjà de la question théorique, aller à la question ou aux questions plurielles pratiques que nous avons sur la question de la conversion. D'abord, en anglais par exemple, lorsque on parle de la conversion, on a deux formules. On dit I'm a convert, je suis un converti. Et d'autres musulmanes et musulmans disent, n'aiment pas ceci, ils disent non, I'm a revert, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est revenu à l'origine, c'est-à-dire c'est un retour, c'est pas une conversion, c'est un retour à l'origine, selon la formule française, la formule anglaise. Et certains ne veulent absolument pas utiliser le terme de conversion qui, en fait, ne correspond pas à ce qui est dit finalement dans la tradition du prophète. Ce que dit le prophète, c'est que tous les êtres humains, tous les Bani Adam, c'est-à-dire tous les êtres humains sont nés selon la fetra. La fetra qui est l'aspiration originelle vers Dieu, l'unique, est en fait, originellement, nous sommes muslimoun, c'est-à-dire nous sommes musulmans, nous sommes dans la paix avec Dieu. Et puis, finalement, après, c'est des parents qui nous ont fait juifs, chrétiens ou autres. Et puis, quelqu'un qui revient à l'islam revient à l'origine, donc il est revert, c'est-à-dire il fait un retour à l'origine. Ce qui est dans la compréhension de l'islam, de ses principes et de sa philosophie, c'est juste. C'est-à-dire c'est bien un retour pour nous, en tant que musulmans, à quelque chose qui est l'origine, au sens de l'islam générique. C'est-à-dire que Ibrahim, alayhi salam, Abraham, était musulman. Il qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim, alayhi salam, Abraham, il dit ceci, quand Dieu lui dit soumets-toi ou entre dans ma paix, il entre dans la paix, il est dans la reconnaissance de la paix divine, de la reconnaissance de la présence divine. Donc il y a un islam qui est celui qui traverse l'histoire. Et puis l'islam d'une époque, ce fut le judaïsme, l'islam d'une époque, ce fut le christianisme, l'islam, la dernière révélation pour nous, c'est donc l'islam qui vient être le sceau des prophéties et l'ultime révélation. Tout cela est juste. Maintenant, il y a quand même un élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention et sur lequel je pense qu'il faut qu'on s'arrête un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a une dimension de retour, mais c'est vrai aussi qu'il y a une dimension de changement, de conversion, de transformation. On a dans une des invocations du prophète, quand il est dit « Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. » Ya muqallib al-qulub, c'est-à-dire « Ô toi qui fais permuter, changer de direction les cœurs, établis notre cœur, fixe notre cœur dans ta voie, dans ta religion, au sens de dans le sens ultime de ta vérité. Et il y a bien cette idée, à un moment donné, pour une femme et pour un homme qui vient dans l'islam, il y a quand même un changement du cœur. Alors certes, il y a un retour, c'est pour ça que j'utilise les deux. Il y a un retour à l'origine par la conversion du cœur, par une transformation qui est vécue par une femme et qui est vécue par un homme quand il reconnaît Dieu et qu'il va changer, elle ou il va changer sa vie. Et donc il faut reconnaître ce bouleversement, cette conversion. Donc il y a bien une conversion du cœur, une transformation, un changement, une transmutation, pour utiliser un terme philosophique, mais où les valeurs vont changer, les priorités vont changer, et où l'axe essentiel de la vie va se changer. La ilaha illallah, l'unicité de Dieu va être cet axe qui va se fixer au cœur de la vie, puis ensuite il va y avoir bien ce que nous connaissons de l'islam, à savoir les piliers de la foi, et puis de ce que, par exemple, le prophète A.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. musulmans, tu leur enseigneras leur religion, qu'il y a 5 prières par jour, qu'il y a la zakat à payer, qu'il y a le jeûne et le pèlerinage, etc. Donc il y a ceci qui va changer au niveau de la pratique. Ensuite, il y a des prescriptions de moralité, c'est-à-dire l'alcool que l'on ne boit plus, la viande de porc que l'on ne mange plus, donc des choses qui vont changer dans la vie d'un être humain, d'une femme et d'un homme, donc une conversion du cœur. Et c'est ce qui est arrivé au prophète, quand le prophète reçoit les premières révélations, quand il reçoit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ لي une conversion absolue, intellectuelle, je ne sais pas lire, lis, parce qu'avec la puissance de Dieu, tu peux lire, et puis ton cœur, il doit voir les choses de façon différente, donc il y a, regarde autour de toi, regarde la nature, le cœur doit se convertir, il doit changer ses habitudes, il doit changer son regard, donc il y a une vraie conversion du regard, une vraie conversion du cœur, une vraie conversion, donc le prophète sallam est certes revenu à la foi de l'origine, parce que Ibrahim alayhi salam, il était hanif, c'est-à-dire il était de ce monothéisme originel. Certes, il est revenu à ça, mais par une complète conversion du cœur, en rejetant, se libérant, se distançant complètement du polythéisme et en revenant à ça. Et là, c'est ce qui est demandé à une convertie ou un converti, c'est de prendre les distances par rapport à toutes les croyances de l'époque moderne, toutes les croyances ou les fausses croyances, que ce soit les idoles de l'époque, l'argent, la réputation, le pouvoir, et d'en venir à une conversion du cœur et à placer l'amour du divin au cœur de son cheminement de vie. Donc ça, c'est une première des choses. Elle est importante, elle va changer un regard sur soi, parce que le regard sur soi, la conversion, ce qu'elle dit, c'est deux choses. Tout ce que tu as fait avant que ton regard sur toi-même soit porté par la lumière du divin est effacé. C'est-à-dire un retour à l'origine par le cœur et à l'innocence dans l'être. Donc il y a une innocence, tout le passé est effacé, il est né. Il y a une naissance dans, là, de ce point de vue-là, une véritable purification essentielle, fondamentale. Le cœur revient à Dieu dans la pureté et l'être est dans la pureté de l'origine. Donc on a ici quelque chose qui va, là on va faire El Ros, c'est-à-dire la grande ablution, et tout va partir et on est. Alors on connaît les formules dans ce christianisme, born again, c'est-à-dire né à nouveau chrétien. Dans l'islam, il y a cette dimension de, c'est pas né à nouveau, c'est né. C'est-à-dire une véritable naissance de la foi et de l'effacement de tous les péchés. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où tout est effacé, il y a la conscience. Et dès ce moment-là, il y a la bonne nouvelle de la pureté et l'exigeante nouvelle de la prise en charge, de la responsabilité, de l'autonomie. C'est-à-dire de se prendre en charge. À partir de ce moment-là, devant Dieu, tout ce que je fais, j'en suis redevable. Je dois prendre mes responsabilités. Prendre les responsabilités de mon cœur, prendre les responsabilités de mes actions, prendre les responsabilités de ma pratique, prendre mes responsabilités sociales. Donc il y a un véritable regard sur soi qui doit changer, un véritable travail sur soi qui doit être effectué, et avec ce regard, une discipline, des efforts, un sacrifice noble quant à comment je fais pour pratiquer cette religion et améliorer mon être. Un travail sur soi. Dans l'autonomie, personne ne pourra le faire. Personne ne portera le fardeau. Quelqu'un qui naît à l'islam et qui vient par la conversion du cœur et le retour à l'origine, à l'innocence originelle, eh bien, à partir de ce moment-là, il est et doit et devenir responsable. Et il y a une chose qui est importante, c'est un travail qui est lié à Dieu. Donc, bien entendu, il y a la communauté des femmes et des hommes, des croyants qui vont aider, qui vont être présents, mais c'est un cheminement personnel, intime dans une collectivité. Ça n'est pas une collectivité qui fait l'intimité d'une femme et d'un homme. Et ça, c'est très important. Beaucoup de convertis, finalement, développent des complexes par la force de la communauté qui juge, par la force de la collectivité. Attention, quand Dieu a appelé un être à venir à la vérité et elle a amené à lui, c'est qu'il lui a donné une valeur qui est au moins aussi importante que la valeur de tous ceux qui y sont déjà. Donc il n'y a pas à établir de complexe par rapport à ça. Et il faut assumer son cheminement personnel, son rythme personnel, ses étapes. Il ne faut pas se laisser au jugement du nombre. Il faut aller vers la réconciliation de l'être. Et ça, c'est un mot qui est important. C'est-à-dire que revenir à l'origine, c'est se réconcilier, c'est se regarder et regarder son intériorité de nouvelles façons, mais pas pour la nier, pas pour nier ce que nous sommes, pas pour nier ce qui nous a fait, pas pour nier ce que sont nos qualités, pas pour nier nos... Au contraire, c'est un nouveau regard sur soi qui s'assume complètement pour ce qu'il est et qui, à partir de là, en s'assumant, va déterminer les étapes de ce cheminement spirituel qui va venir. Donc c'est se retrouver et non pas devenir étranger à son passé. C'est se redécouvrir et non pas devenir étranger à soi. C'est le contraire. Et donc ici, il faut l'assumer. Et ça, personne autour d'un converti ne peut faire ce travail-là, si ce n'est elle-même ou lui-même. Donc il faut vraiment le vivre de cette façon-là. Et parfois, il faut prendre du temps, il faut s'isoler, il faut méditer, il faut se penser, il faut établir un bilan de sa vie. Et en se disant comment Dieu nous a amenés jusque-là, comment le cheminement a été jusque-là. Ça, ce sont des étapes qui sont très très concrètes dans la conversion, qui sont des étapes où il faut prendre du temps, où il faut ne pas laisser le jugement de ceux qui sont devenus musulmans avoir un impact sur le cheminement de celui qui le devient ou de celle qui le devient. Il faut prendre son temps, il faut prendre son temps et se prendre en charge soi-même dans un travail personnel. Et ça, c'est une formidable expérience de vie, difficile, exigeante, mais tellement profonde qu'elle permet de faire ressortir tellement de dimensions de l'être qu'il faut méditer, qu'il faut penser et qu'il faut assumer surtout. Ça, c'est une première étape avant que nous en venions aux différentes dimensions et aux différentes relations qu'on a avec la communauté des femmes et des hommes qui portent la foi, la même foi dans la communauté musulmane. À tout à l'heure après la pause, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve après cette pause. Nous parlions tout à l'heure de la conversion et de ce cheminement. Ce qui est important pour chacune et pour chacun dans ce moment qui est un moment tout à fait essentiel pour une femme et qui pour une femme ou pour un homme qui entre dans l'islam, c'est de se prendre en charge. Et donc le regard va changer, le regard sur soi, le regard sur les choses. Il y a aussi la compréhension du sens de la vie, regarder les priorités de la vie, il y a Dieu, puis il y a une pratique, et puis il y a des choses qu'on ne fait plus. Et donc ça aussi, il faut les assumer. Il faut aussi comprendre le sens des étapes. Dans la compréhension, il y a des étapes. Il ne faut pas tout vouloir tout de suite. Il faut faire en fonction. Et d'ailleurs, ceux qui entourent des femmes et des hommes qui sont convertis ou qui les accompagnent, il faut qu'ils fassent très attention à ça. Il faut garder le sens des priorités. Il y a certains qui commencent par les détails, comme si directement il fallait passer, quand on devient musulman ou quand on devient musulmane, à être le plus parfait et directement. Non, il doit y avoir le bon comportement, il y a la pratique, puis ensuite il y a les interdits. Et puis, bien sûr, on essaye d'appliquer le plus possible et de respecter ce qui doit être respecté. Mais il y a des étapes dans l'intensité et dans la nature même de la pratique et de la compréhension. Puis ensuite, il y a les finalités de la vie, bien entendu, quand nous savons que tout ceci doit être fait dans le sens même de la vie. Parce que dire Dieu, ça veut dire que ma vie a un sens et que je vais devoir y répondre. Ce qui est particulièrement problématique souvent dans les communautés musulmanes, c'est comment les femmes et les hommes qui sont entrés dans ou qui reçoivent des sont très joyeux quand ils voient qu'une femme ou un homme se convertit, et établissent des jugements, et parfois sont très présents à l'entrée, puis finalement disparaissent ou sont très portés par des jugements pendant tout le cheminement des personnes. Et là, il faut faire très attention. Parce que la première des choses qu'il faut dire, une femme et un homme qui est venu à l'islam avec un certain passé, au moment où cette personne est entrée dans l'islam, son passé est effacé. Il est effacé pour ses juges, mais il n'est pas effacé pour sa voix à elle, cette personne. Ça, c'est une chose qu'il faut dire avec de façon très claire, avec beaucoup de précision. Le passé qui m'a fait venir à l'islam est effacé pour tous les juges humains autour de moi, car Dieu m'a fait partir, l'a fait partir ce passé. C'est fini. Tout ce que j'ai pu faire sans savoir, c'est comme si je ne l'avais pas fait avant Dieu. Donc, pour tous les êtres qui me regardent, mon passé est nul, est non avenu pour leur jugement. Mais par contre, pour moi, qui suis à travers ce passé venu, il me constitue encore. Mon passé m'appartient dans mon évolution spirituelle. Il n'appartient à personne dans le jugement. Le passé d'un converti n'est pas de la communauté musulmane, mais le passé d'un converti ou d'une convertie fait partie de son cheminement à elle ou à lui. Et c'est pour ceci qu'il ne faut pas se couper de son passé. Si Dieu est passé par ce passé pour à Dieu, c'est que ce passé, il faut le méditer. Le passé est une école. Il ne faut pas se couper. Je vois par exemple des femmes et des hommes qui veulent tellement se couper de leur passé, qui nient tout ce qu'ils sont ou tout ce qu'ils ont été. Mais non, ton passé te constitue. Tu es ce que tu fus, et tu n'es plus le même. Tu restes encore le produit de ce qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Donc il faut aller chercher dans ce passé des choses, des enseignements, des éléments que tu puisses comprendre, qui puisse te faire comprendre ton parcours, qui puisse te faire comprendre tes qualités, qui puisse te faire comprendre comment Dieu t'a pris, par quelles qualités et quelles sont les erreurs que tu as faites qui pourront à la fois t'aider toi, mais quand tu vas rencontrer un autre être humain qui peut passer par d'autres circonstances de la vie, d'avoir de la pondération, de l'avoir de la compréhension. Le passé d'un converti lui appartient, il n'appartient pas à la communauté des juges. Il appartient à l'école de celui qui est ou de celle qui est devenue musulmane. C'est son école. C'est là où il doit, où elle doit aller chercher du sens. Donc ce passé-là est très important. Il est très important et on ne s'en coupe pas complètement non plus. D'ailleurs, il y a certains qui veulent tellement couper tout que tout doit changer. Je dois changer tout, ma tenue vestimentaire, jusqu'à mon apparence et jusqu'à mon... Oui, bien sûr, quand on est une femme et quand on est un homme d'un point de vue musulman, on va avoir de la pudeur et tout ceci. Mais attention, par exemple, les noms. Certains insistent énormément pour qu'une femme et un homme qui devient musulman ou musulmane changent directement de nom. Attention, on change. À l'époque du prophète, ça, c'était des noms arabes. C'était des noms arabes, Fatima ou Iman ou Amira, ce sont des noms au Malika, tout ça, ce sont des noms qui sont des noms arabes. Et ils changeaient de nom quand la signification du nom voulait dire quelque chose qui était négatif du point de vue de la religion. Mais sinon, ils gardaient leur nom. C'était une culture arabe qui gardait son nom. Quand on est anglais, quand on est américain ou quand on est français, puis qu'on a un nom qui est un nom qui n'a aucune signification négative, on fait partie d'une culture, pourquoi faut-il que l'on change de prénom quand ce prénom est culturellement marqué, mais qu'il n'a pas un sens spirituel négatif? Depuis quand les noms musulmans sont des noms arabes? Mais non, on peut garder son nom et on est dans sa culture et on est. Donc quelqu'un qui se convertit à l'islam n'est pas obligé de changer son nom, ce n'est pas une nécessité. Sauf si effectivement le nom peut poser un problème. Maintenant il y en a qui en ont besoin parce que ça va changer leur identité, ils ont envie d'être quelqu'un de différent, je peux le comprendre, et ça peut se comprendre, et ça a un sens, ça fait sens, mais ça n'est pas une obligation. Et même par rapport à son passé, eh bien, de ce point de vue-là, il va falloir faire attention que on n'arrête pas de dire en tant que musulman que l'universalité de l'islam, ce n'est pas l'uniformité des cultures, c'est pas les... on ne demande pas à tous les musulmans d'être arabes de culture, ou asiatiques de culture, ou africains de culture. Non, on demande à être musulmans de principe, mais l'universalité de l'islam, c'est l'universalité des principes et la diversité des cultures. Et parmi ces signes, il y a la diversité. C'est-à-dire, خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, pour faire le, pour que le verset soit juste, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, la création des cieux de la terre et la succession, et la, excusez-moi, la diversité de vos langues et de vos couleurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette diversité des langues et des couleurs? C'est-à-dire que l'unité de l'humanité, c'est la diversité des cultures. Et la diversité des cultures est fondée aussi pour nous dans la compréhension de l'universalité des principes dans les cultures. Donc on accepte toutes les cultures et tout ce qu'il y a de bien dans les cultures. Et la hikmatu dallatul muslim, la sagesse est la propriété privée ou perdue du musulman. Donc on n'a aucun problème par rapport à ça. Donc il ne faut pas renier sa culture britannique, américaine, française. On y prend ce qu'il y a de bien, et puis avec sa nouvelle religion, eh bien on va se protéger de ce qu'il y a de mal. Parce que tout dans les cultures arabes n'est pas bien, parce que tout dans les cultures africaines n'est pas bien, même dans la culture africaine, eh bien il faut prendre de la culture africaine des choses extraordinairement belles, et puis se protéger de choses qui le sont moins. La même chose dans la culture arabe, même dans les tenues, dans les façons d'être, dans la relation homme-femme, il y a des choses culturelles qu'il faut réformer. L'islam est venu réformer la culture arabe. Et donc, en tant qu'occidental, ou en tant qu'asiatique, ou en tant qu'africain, quelqu'un qui rentre dans l'islam, eh bien, il garde sa culture. Il ne doit pas se couper de son passé. Nul ne peut demander à une femme et un homme, pour être un bon musulman, n'aie plus de passé. Oublie tout. Non, toi, tu oublies mon passé dans ton jugement. Mais moi, je n'oublie pas mon passé dans mon évolution. Toi, oui, tu m'oublies. Tu oublies le passé. Tu ne reviens pas vers moi me dire « dans ton passé, tu fus, parce que ce que je fus n'est plus ce que je suis ». Donc, dans ton jugement, tu l'oublies, mais pas dans ce que je suis aujourd'hui et qui me fait, en l'occurrence, utiliser ce passé pour s'édifier. Et il n'y appartient à personne de me demander de m'arabiser ou de m'africaniser ou de me pakistaniser ou de me turquiciser dans le mauvais français, de me faire changer de culture. Non, je suis de ma culture. Et quand je parle en français ou quand je parle en anglais ou quand je parle n'importe quelle langue, c'est ma culture. Et bien sûr que je vais apprendre l'arabe pour me rapprocher du Coran, mais je garde ma culture et je parle de mon cœur avec la langue qui est celle de mon cœur. Et la langue de mon cœur, c'est celle que j'ai été, avec laquelle j'ai été éduqué. Donc il y a de ce point de vue-là quelque chose qui est le refus, et de refuser de ce point de vue-là que les arabes de culture disent aux musulmans qui ne sont pas de culture arabe qu'ils sont des musulmans de seconde catégorie. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas juste. Et là, il ne faut pas l'accepter. C'est la façon dont je dis, la langue arabe est la langue du Coran et de l'islam. Dans la langue du Coran, c'est la langue de l'islam. Mais la culture arabe n'est pas la culture de l'islam. C'est une des cultures parmi d'autres. Et donc, il faut faire attention à distinguer les choses. Donc ici, par rapport à son passé, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup insister. Parce que dans les noms, dans les, tout ce qu'il y a de bien dans sa culture, il faut l'assumer. Il faut assumer de là où on vient et puis de ne pas permettre à quelqu'un de nous juger par rapport à ça. Puis il y a une autre chose aussi, c'est qu'il faut aussi faire attention aux parents, aux gens qui nous connaissaient avant. Et là, il faut être très très doux. Vous savez, Asma, la fille de, qui était la fille d'Abou Bakr, elle recevait sa maman qui ne s'était pas convertie. Et le prophète, elle dit au prophète, est-ce que je reçois ma maman? Reçois ta maman, bien sûr. Mais il y a des choses, nos parents, quand ils ne sont pas croyants, eh bien, de ce point de vue-là, ça peut être extrêmement difficile. Donc là, il faut faire de la pondération. C'est difficile pour un papa et une maman de voir un enfant qui quitte l'islam. C'est difficile de voir son frère, sa sœur, un ami qui change comme ceci. De la pondération, pas du jugement. Il faut accompagner les gens. D'ailleurs, il faut les accompagner à comprendre et il faut comprendre leur souffrance. C'est difficile. C'est difficile. Donc une fille ou un homme qui entre dans l'islam doit comprendre la souffrance, le déchirement pour les parents, les accompagner, leur parler et montrer que cet islam me rend encore meilleur. C'est-à-dire meilleur pour toi, mon père, meilleur pour toi, ma mère. Ce que je suis devenu est meilleur pour ce que tu es pour moi, parce qu'il n'y a pas d'espérance d'être proche de Dieu pour moi si je ne sers pas mes parents. C'est-à-dire accompagne-les sur cette terre de la meilleure des façons, donc le respect aussi de ses parents, donc le passé, donc ses parents, et puis en l'occurrence, beaucoup plus généralement, par rapport à la société, de faire en sorte d'être un élément de contribution. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette question de la conversion, parce que c'est un long sujet, et il faut l'approfondir beaucoup. Donc, à partir de son passé, à partir aussi de ses parents, à partir de sa culture aussi, pouvoir la respecter, et puis apporter à l'islam la diversité culturelle, le génie de sa culture, le génie de sa société, la contribution éthique. Là où on est, comme l'on est, il n'y a pas de musulmans de seconde catégorie parce que d'une culture particulière, le meilleur et le plus pieux, quel que soit son sang, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa culture. Et les convertis doivent être cet apport, cette contribution positive en s'assumant. En assumant leur propre projet, en assumant leur propre réalité, Inch'Allah. Je vous retrouve là, dans une prochaine émission. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon site internet tarikramadan.com ou sur ma page officielle de Facebook ou alors encore sur la page de la chaîne satellitaire. Vous faire part de vos remarques, vous faire part de vos commentaires pour que nous puissions en tenir compte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do 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 do